France Musique. France Musique, les grands entretiens. Laurent Villarem.
Je m'appelle David Grimal. Je suis né le 9 février 1973 à Châtenay-Malabry. Et je suis violoniste et chef d'orchestre, pas comme les autres.
David Grimal, ça fait paraître une dizaine de disques. Vous avez commencé par les Métamorphoses de Strauss, par exemple.
Métamorphoses de Strauss, c'est très intéressant, parce que c'est une œuvre pour 23 instruments solistes. Donc elle est tout à fait emblématique de cette problématique du groupe et de l'individu. C'est une œuvre, en général, qui sature très très vite, parce que chacun est dans l'hyper-expressivité, et donc on est dans la surenchère, et on ne comprend absolument rien. Et donc, pour que cette œuvre fonctionne, il faut que chacun se mette à l'écoute de l'autre, et il faut plutôt descendre absolument tout, et c'est à partir du moment où c'est pas moi, au moment où je joue, que le nous peut naître, et que la richesse contrapuntique de l'œuvre peut être intelligible. Et c'est une œuvre aussi où on a l'impression qu'elle est totalement dans le ressenti, alors que c'est uniquement le travail sur les proportions et sur l'architecture temporelle de l'œuvre, hein, parce que ça fait 30 minutes sans pause à peu près, avec des grandes sections, avec le nombre d'or, etc. Enfin, c'est toujours écrit de la même manière, la musique c'est comme les maisons. Hein, et donc c'est à partir du moment où cette structure devient porteuse, au-delà du plaisir immédiat, que toute la puissance de l'œuvre peut se dégager. Et je me souviens, à l'époque, en fait, j'avais fait un travail d'architecte pur. Et ça donne une interprétation où on entend absolument tout. Alors après, on peut toujours discuter de ce qui manque, de ce qui ne va pas, évidemment. Les symphonies de Beethoven, alors c'était une époque aussi, j'ai joué tous les quatuors de Beethoven. Les symphonies de Beethoven, mais en fait, quand on regarde le texte, tout simplement, et qu'on est quand même plutôt du côté des tempi plutôt assez rapides maintenant qu'on pratique dans ces symphonies, qu'on prend une orchestration légère, c'est-à-dire pas un orchestre avec énormément de cordes, et qu'on essaye de travailler avec des cuivres naturels, des timbales naturelles. On l'a pas fait avec les bois d'époque, parce qu'on a une équipe extraordinaire qui joue sur les bois modernes, mais enfin, on a quand même adapté les choses. On n'a pas forcément fait non plus en boyau, mais on était tout à fait conscient du travail sur l'instrument d'époque, sur l'articulation, les tempi, etc., comme je disais, et puis le mariage entre les timbres. Ben on arrive finalement à quelque chose de très organique, de très... très avec une vitalité rythmique extraordinaire, et un Beethoven qui est complètement dépoussiéré des visions allemandes, je dirais, de Beethoven. Voilà, il était, de toute façon, c'est une musique qui a été composée avant Karajan, hein, donc on a décarajanisé Beethoven, d'une certaine manière. Et donc on est dans quelque chose de qui fonctionnait très bien avec le côté juvénile aussi du groupe, où il y avait, voilà, on avait tous entre 20 et 35 ans, quoi, et puis on avait tous une envie folle de jouer. Et avec pas mal de musiciens qui jouaient aussi dans le Mahler Chamber à l'époque, ou l'orchestre du Festival de Lucerne, qui était aussi marqué par leur collaboration avec Abbado, donc qui était déjà un peu dans cette idée-là. On est allé un peu plus loin encore. Et donc ça a été une joie incroyable, ça.
Par exemple, le concerto de Brahms ou celui de Beethoven ou de Mozart, entouré des dissonances derrière. Vous êtes soliste, vous êtes chef, vous êtes musicien, comment, quand vous êtes sur le devant de la scène.
Il y a plusieurs choses, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses. Les plus, c'est que j'ai une relation directe avec les musiciens. C'est-à-dire que quand je joue, même si je leur tourne le dos, j'ai une écoute surmultipliée et je sais qu'eux aussi. Et donc, on va faire vraiment de la musique de chambre. Alors, ça, c'est extraordinaire, parce que quand on se connaît bien, qu'on a l'habitude de jouer ensemble, il y a des sonorités. Je me souviens, quand j'ai fait le concerto de Berg, qui est quand même une œuvre extrêmement difficile avec chef, qu'on a fait sans chef, qui est presque impossible à cause de l'orchestration, je pouvais pour la première fois faire la pastorale dans le deuxième mouvement, pianissimo avec la trompette qui était piano, qui avait le thème, et j'ai pu faire exactement la nuance écrite par le compositeur. J'ai pu avoir exactement, en fait, ce qu'il voulait comme couleur. C'est pas une nuance, c'est pas une quantité, c'est une qualité, évidemment. Parce que je savais, le trompettiste tchèque qui jouait avec moi, qui joue toutes les trompettes, qui est un être d'une culture, d'un raffinement extraordinaire, je savais qu'il allait chercher exactement cette couleur-là et qu'il savait que moi, je devais faire ça. Où j'avais les contrebassistes qui faisaient une gamme en descendant, je savais qu'elle allait être faite exactement. Donc je pouvais faire exactement ce qui était marqué sur la partition. Tandis qu'à chaque fois que je les jouais avec chef, je jouais fortissimo d'un bout à l'autre, parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Et donc, de ce point de vue-là, il y a quelque chose d'extraordinaire qu'on peut vivre. La chose qui est moins facile, c'est qu'on a moins de souplesse. C'est-à-dire que le rubato doit être extrêmement organique. Et le rubato, quand on joue un concerto, quand c'est pas du narcissisme, il est parfois nécessaire, parce qu'on fait des très grandes phrases, et puis on doit pas être dans un rythme trop régulier. Et évidemment, le chef, il est là pour emmener d'un geste l'orchestre, pour pouvoir projeter les choses. Et ça, c'est la difficulté, notamment quand je travaille avec des orchestres professionnels sans chef, avec lesquels je suis invité de plus en plus souvent pour qu'ils vivent autre chose, quoi, tout simplement.
D'ailleurs, vous m'avez dit la semaine dernière, vous étiez en Finlande.
Oui, j'étais en Finlande.
Et vous avez mis le sourire sur le visage de 50 Finlandais.
Ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi. Mais ça a été une épreuve pour eux comme pour moi. Ça a été très difficile parce qu'il a fallu les faire sortir de leur zone de confort.
C'est quoi un musicien d'orchestre qui est...
Dans la zone de confort?
Oui.
C'est un musicien qui attend de faire ce qu'on lui dit de faire. C'est tout, quoi. Et puis là, il n'y avait rien de ça. Ça a été super dur, parce que le programme était hyper exigeant. Je jouais le Caprice roumain d'Enescu, qui est très difficile. Tzigane et Chausson, parce que j'étais dans l'élan de la tournée de la semaine d'avant, donc c'était comme ça. Bon. Et pour un orchestre qui n'avait jamais travaillé comme ça, c'était extrêmement difficile. Et ils s'en sont extrêmement bien sortis, mais qu'est-ce que ça a été dur pour eux. Et ils m'ont remercié à la fin.
C'est-à-dire, par exemple,
ils ont été obligés de travailler à la maison.
Ah, voilà.
Ah, ils ont été obligés de travailler à la maison. Ils ont
été obligés de donner des devoirs à faire.
Ah, ils ont été obligés de prendre le score, ce qu'on appelle le score, c'est-à-dire la partition d'orchestre. Ils ont été obligés de savoir ce que les autres jouaient, ils ont été obligés d'étudier la musique, ils ont été obligés de se responsabiliser, sinon ça n'allait pas fonctionner. Et les jeunes l'ont fait très facilement, les plus anciens ont eu plus de mal, parce que ça fait longtemps qu'ils travaillent plus vraiment, et ils ont souffert, mais ils l'ont fait. Et c'était extraordinaire pour moi, parce qu'ils l'ont fait, ils l'ont fait. On a fait un concert où le public était debout, et la directrice de l'orchestre m'a pris dans les mains, elle m'a dit « mais j'imaginais pas que ça serait une aventure aussi extraordinaire ». Et donc j'ai réussi, et pourtant ça a été super dur.
France Musique, les grands entretiens de David Grimal.
David Grimal, vous êtes exigeant ?
Oui, peut-être, oui.
Vous attendez qu'on se livre à vous ? Qu'on s'abandonne, ou plutôt qu'on...
Mais je me rends pas compte, vous savez, parce que je crois que je suis très exigeant avec moi-même, c'est normal. Disons que j'attends une certaine qualité d'échange. Et la qualité d'échange, c'est l'ouverture. Donc, mais une fois que cette qualité est là, c'est extraordinaire ce qui se passe.
On a commencé avec les Métamorphoses pour 23 cordes solistes, qui est déjà un gros morceau. Et petit à petit, maintenant, vous jouez des symphonies de Bruckner.
Oui, on a fait quelques symphonies de Bruckner, on a fait symphonie de Mahler, on a fait beaucoup de Stravinsky, du Ravel, du Debussy. On a fait des choses. On a même fait le Péléas et Mélisande de Schoenberg. C'était extraordinaire comme aventure aussi, avec des sonorités tellement soyeuses, tellement belles dans l'orchestre, de transparence tellement extraordinaire, justement parce que tout le monde est à l'écoute de tout. On ne doit pas se perdre.
Pour nos auditeurs, s'ils veulent voir le miracle des dissonances, vous leur diriez d'écouter quoi, ou même de voir sur YouTube?
Je leur dirais de regarder sur YouTube le début de Daphnis, qu'on avait fait à la Philharmonie il y a 5 ou 6 ans. Je suis absolument bouleversé par les visages des musiciens. Et par la musique, évidemment. C'est une musique tellement incroyable, mais les visages des musiciens, on a l'impression qu'ils sont joués, en fait, par la musique.
C'est presque érotique ce que vous dites là, non?
Pardon?
C'est presque érotique?
Mais bien sûr. C'est de l'amour. Un journaliste me demandait, au Festival Enescu, me demandait cette question très difficile, parce que impossible, en fait. Qu'est-ce que c'est la musique pour vous? Bon, en général, j'ai lu de la question, et là, je ne sais pas pourquoi. J'ai lu cette réponse. La musique, c'est l'amour et la liberté. Peut-être parce que, après toute cette période très difficile, les choses sont plus claires. L'amour, donc ce qu'on voit, c'est érotique, c'est l'amour, oui, c'est l'amour entre les gens. Et justement, j'ai cette anecdote de notre contrebassiste solo qui s'appelle Nick de Groot, qui est un très grand contrebassiste, qui a été, il y a 15 ans, qui était au Concertgebouw d'Amsterdam comme contrebassiste solo, qui a démissionné parce qu'il était dégoûté par l'orchestre, alors que c'était un très bel orchestre quand même. Et qui est un très grand prof, qui a formé le contrebassiste solo de l'Orchestre de Paris, de tous les orchestres européens. Je l'avais croisé dans un festival de musique de chambre, en Scandinavie. Il y a quelques années, il m'avait dit, les dissonances et tout. J'ai dit, mais Nick, il paraît que tu t'as dit que tu voulais plus jamais faire d'orchestre. Il me dit, oui, mais bon, si tu m'invites une fois, peut-être je viendrai si je suis libre. Ok, très bien. 15 jours après, je l'invite. Et on jouait le concerto pour orchestre de Bartok, qui est quand même un gros machin. Bon. Et puis la lecture des nouvelles œuvres aux dissonances est toujours un petit peu particulier parce que
c'est-à-dire
qu'il y a, comme il n'y a pas de chef d'orchestre, quand on lit, on est au radar quand même. Hein. 85 musiciens qui lisent une œuvre que l'orchestre a jamais jouée, c'est voilà, ça sonne pas vraiment comme le Concertgebouw quoi. Et donc je le voyais en face de moi, je me suis dit il va partir. Je me suis dit à la pause il part quoi. Et puis il vient me voir après la répétition, et il me dit anything that looks like an orchestra is pure coincidence.
Ce qui le fait que ça ressemble à un orchestre, ouais, c'est pure coïncidence.
Je me dis, il va me dire que c'est pas possible et qu'il part. Et non. Et en fait, il avait presque les larmes aux yeux et il me dit, c'est incroyable. Ici, si tu veux que ça marche, tu dois aimer les gens avec qui tu joues. Et il nous a plus jamais quittés.
Et malgré tout, il y a quand même des gens qui quittent les dissonances. Il y a des gens qui se sentent pas à l'aise, j'imagine.
Oui, il y a des gens avec qui ça se passe mal. Il y a des gens avec qui ça se passe pas. C'est normal. Mais on a travaillé avec 450 ou 500 musiciens de toute l'Europe. Enfin, du monde même. Et peut-être avec 4 ou 5 personnes, ça a dû s'arrêter.
Dis-moi ce que tu penses de ma vie, de mon adolescence. Dis-moi ce que tu penses. Moi, j'aime aussi l'amour et la violence. Dis-moi ce que tu penses de ma vie, de mon adolescence.
Une chanson, justement, vous parliez de l'amour et la liberté. Une chanson de Sébastien Tellier, une sorte de chanteur pop plutôt sympa. Sa chanson s'appelle « L'amour et la violence ». Est-ce que c'est les deux sont liés? Est-ce qu'on est obligé de se faire violence pour percer cette routine? Pour justement partager des choses ensemble.
Pour certaines personnes, il n'y a aucune violence à se faire. Au contraire, ils trouvent un moment où ils peuvent déposer leurs armes et où ils se sentent... Enfin, ils peuvent respirer. Donc là, c'est une libération. Et après, peut-être pour certaines personnes, c'est très difficile. Parce qu'ils ont été élevés dans un autre monde, en fait. Très vertical, très conservateur, dans lequel on est dans la maîtrise totale, et le laisser aller, l'abandon, l'ouverture à l'autre sont impossibles.
Nous avons parlé de l'aventure des dissonances, qui est vraiment quelque chose de merveilleux, et malgré tout ça, les dissonances sont actuellement en danger.
Oui, les dissonances sont dans un moment décisif, on va dire, de leur histoire. C'est-à-dire, soit on s'arrête, puis ça restera une légende, puisque le monde entier nous connaît, que c'est parmi les musiciens et les jeunes générations quelque chose de mythique déjà, donc bon, bah, ça restera comme la commune, mais alors que ça n'a rien à voir. Ou alors, on obtient un vrai soutien des institutions dans notre pays, comme les institutions sont capables de le faire pour d'autres projets d'envergure. Et la France comprend que c'est un projet formidable, qui ne remet en cause aucune situation acquise par d'autres, qui n'est pas un danger pour l'ordre établi, mais qui est plutôt un appel d'air formidable. Et on nous donne vraiment les moyens, en fait, d'avoir le rayonnement qu'on devrait avoir. Jusqu'à présent, on n'a jamais eu les moyens. On a toujours été dans la survie. Ça fait plus de 15 ans que ça dure.
Parce que vous étiez à l'Opéra de Dijon avant.
Oui, on était à l'Opéra de Dijon, mais on n'avait pas non plus les moyens suffisants pour pouvoir rayonner comme on pourrait. Aujourd'hui, on est invité par des tas de grandes salles. On peut pas y aller. On n'a pas les moyens.
Mais juste l'Opéra de Dijon, qu'est-ce qui s'est passé à l'Opéra de Dijon pour nos auditeurs?
À l'Opéra de Dijon, il y a eu un changement de direction, ce qui arrive dans tous les opéras, et il n'y a rien de scandaleux à ça. Bon, la personne qui a été choisie par le maire. C'est un copain d'enfance avec qui il jouait au foot. En tout cas, c'est ce qu'il a expliqué au conseil municipal pour justifier le fait qu'il n'y ait eu aucune consultation. Et il se trouve que cette personne, qui est à 2 ans de la retraite, a cassé absolument tout ce qui avait été construit avant. A commencé par la dissonance. Et en interrompant les choses de manière extrêmement brutale et violente, alors qu'en général, on peut interrompre une résidence, il a le droit, mais en général, on le fait sur plusieurs années et on essaye de pas tuer le projet. Donc aujourd'hui, le projet est en danger, effectivement, il faut qu'on retrouve des soutiens, et donc il faut savoir si notre pays veut de ce projet ou pas. Pour l'instant, ça fait 6 mois que j'essaye d'avoir un rendez-vous avec notre ministre de la Culture, on m'explique que... Il faut d'abord trouver des solutions et qu'après on se verra, et en fait c'est pas ce que j'attends.
Chercher des mécènes par exemple, des choses comme ça? L'argent rattrape tout?
L'argent ne rattrape pas tout, non, non. Il faut que le système accueille. C'est pas quelque chose qui va contre le système, c'est complémentaire. C'est un projet qui fédère des musiciens de toute l'Europe. Aucun orchestre français ne fait ça. C'est un projet qui remplit les salles avec des jeunes. Tout le monde essaye de le faire, nous le faisons. C'est un projet qui a un rayonnement international. Pas beaucoup d'orchestres français l'ont. Donc il faut que le monde culturel français se disent qu'ils sont fiers de ce projet, qu'ils donnent des moyens à ce projet.
Et concrètement, il manque combien d'argent?
C'est pas qu'une question d'argent.
Une question de soutien.
C'est une question de soutien financier, mais pas seulement. Politique aussi, d'engagement. Donc, est-ce que cet engagement aura lieu? Oui ou non? C'est ça la question. Et j'aurai la réponse assez vite. Donc, moi, après, si ça ne continue pas en France, comme j'ai de plus en plus d'orchestres à l'étranger qui me demandent de travailler avec eux et que je vois bien que cette énergie est irrésistible, on l'a bien senti l'autre jour à la Philharmonie de Paris, on voit bien l'énergie qu'il y a, et comme elle est positive. Je crois que l'énergie positive, c'est quelque chose dont on a tous besoin. Je pense que l'intelligence collective et cette métaphore d'intelligence collective, c'est une belle chose à l'heure où notre société fait face à des défis extrêmement complexes. Je pense que c'est une belle métaphore. Voilà, donc la question c'est, est-ce que cette métaphore s'inscrit dans un humanisme et un progressisme politique, ou alors est-ce que nous sommes dans une radicalisation conservatrice? Et dans ce cas-là, nous sommes déclarés subversifs et donc persona non grata. C'est la question qu'on se pose aujourd'hui.
Thank you.
écouté une émission de vous radio il y a 11 ans, je crois que c'était en 2010, qui disait que vous seriez très heureux. Passez la main aux dissonances. Maintenant, nous sommes 11 ans plus tard. Est-ce que vous ne rêvez pas d'autres aventures? Est-ce que finalement, ça n'a pas fait son temps, ces dissonances, en tout cas en France?
Peut-être. Je ne sais pas. C'est très difficile pour moi de savoir, quand je fais des tournées comme je viens de faire, avec un tel succès, une telle joie, c'est très difficile de me dire que ça s'arrête. Parce que j'ai la responsabilité, pas seulement pour moi, mais pour des tas de jeunes musiciens ou des tas de musiciens qui me disent « David, ça ne peut pas s'arrêter ». Tous, ils disent « Tu ne peux pas t'arrêter, on ne peut pas arrêter ça ». Malheureusement, j'ai vu que la transmission n'était pas possible.
Est-ce que vous y avez songé?
Bien sûr, j'y ai songé. Et j'ai essayé de le faire, mais ça ne marche pas.
Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé?
Parce que je pense que ce n'est pas un orchestre sans chef, que c'est un orchestre avec chef, et qu'en fait, c'est un orchestre avec même hyper chef, d'une certaine manière, et que cette inspiration... Et cette sédimentation, cette confiance, cette magie, en fait, toute cette magie, pour l'instant, elle s'est développée à travers mon énergie, ma présence et ce que j'ai donné aussi au projet. Après, d'autres projets semblables peuvent naître par ailleurs, et je le souhaite. Mais aujourd'hui, en tout cas, on est là. Peut-être que ça va se terminer dans 6 mois, c'est pas entre mes mains.
J'ai l'impression que vous avez envie d'aller à l'étranger, là. Là où on vous désire.
Peut-être.
Là où on vous veut.
Oui, peut-être. Bon, il faut voir. Je suis très curieux de savoir si, en fait, je suis curieux de savoir s'il y a de la place pour cette conception de la musique où les musiciens sont vraiment beaucoup plus au centre. Ça m'intéresse.
Vous-même, vous entamez une carrière de chef invité, presque, de violoniste chef invité.
Je travaille dans plusieurs pays, en fait, avec plusieurs orchestres, de manière régulière.
Bilbao, notamment, je crois, l'orchestre de Bilbao.
L'orchestre de Bilbao, l'orchestre de Galice, surtout, en Espagne. Pas mal en Espagne, et puis en Russie, en Roumanie, en Hongrie.
Mais c'est pas votre bébé, c'est pas les dissonances.
C'est autre chose, c'est un autre travail. Ben, le niveau qu'on atteint avec les dissonances, c'est quand même autre chose, forcément, parce qu'il y a un langage commun, c'est un peu le navire amiral. C'est différent d'être dans un endroit où c'est la règle du jeu ou de mettre cette règle du jeu dans un endroit où la règle du jeu est différente. C'est une autre expérience.
Après, c'est comme ce que vous faisiez avec Caruso, vous démontiez le métronome.
C'est ça.
Et vous aviez du plaisir à faire ça?
Je ne sais pas.
Des applaudissements pour David Grimal et les dissonances dans le rondo final de la symphonie espagnole d'Édouard Lalo. Une émission réalisée par Gilles Blanchard, prise de son Laurent Macchietti, mixage Claire Levasseur, attaché de production Marie-Christine Ferdinand. Les grands entretiens sont à retrouver en podcast sur le site francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.